Santé, c'est bon pour la santé.
Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je le souhaite malgré ce temps guéri. Oh, qui rend la vie parfois un peu plus lourde, mais il faut s'accrocher. C'est le temps ensoleillé qui s'en vient. Et moi, je continue de prendre ma vitamine D. Je me dis que ça ne peut pas nuire. Marianne Paquette avec vous pour la prochaine heure. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Et voici ce qui nous attend pour la prochaine heure. Notre chroniqueuse France Cardinal-Rémette nous fait réaliser l'importance de prendre soin de soi quand on est un proche aidant. Elle nous donne aussi des trucs concrets de comment on peut s'aider soi-même afin d'être un meilleur aidant et ce sans y laisser sa peau, sans avoir honte de demander de l'aide et d'aller au-devant des ressources. Aussi, Marie-Joannie Raymond, kinésiologue, enseignante en danse et directrice de Au nom de la danse, Division Québec, met en lumière les nombreux bénéfices de la danse pour les personnes qui vivent en situation de handicap et il y en a plusieurs. En plus, la danse, c'est ludique et ça fait du bien au cœur en temps pluvieux. Le cardiologue Dr. Martin Junot, directeur du célèbre Centre Épique, présente son nouveau livre « Un cœur pour la vie » et il revient dans ce livre, et ce de façon très claire, très nette, et ce avec plein d'études à l'appui, sur l'adoption ou le maintien de saines habitudes de vie, ce qui permet, oui, bien sûr, d'une part, d'ajouter des années à la vie, mais surtout des années en santé pour avoir une belle qualité de vie. Il nous en parle tout à l'heure. Et notre sommeil, si précieux sommeil, souvent insuffisant, souvent de mauvaise qualité, et à cause de qui? À cause de nos enfants qui, eux aussi, ont un trouble de sommeil. Ça se peut, hein, et c'est assez courant même chez les enfants. Roger Godbout, lui, est directeur du laboratoire et clinique du sommeil hôpital, de l'hôpital, oui, en santé mentale de Rivière-des-Prairies. Et il nous présentera le programme Bonne nuit, meilleur jour, qui pourrait aider vos enfants et toute votre famille à mieux dormir. Enfin. On apprenait il y a quelques jours, en fait, il y a une semaine, la confirmation que nos Canadiens, notre si adorée Sainte Flanelle, allait accéder, s'emparer, en fait, allait accéder aux séries éliminatoires, desquelles ils avaient, il faut s'en rappeler hein, quand même, desquelles ils avaient été exclus l'année dernière. Donc, la ville de Montréal sera dans quelques jours empreinte de cette fièvre des séries, hein, comme vous le savez. Au grand plaisir, bien sûr, des fans et des commerçants. Toutefois, il faut se rappeler, et pour les parents, pour les familles, c'est assez clair que tout ce qui touche les activités de patins, qu'on pense au hockey, oui, au patin artistique, ça coûte très, très cher aux familles. Bon, c'est connu, il y a des parents parfois qui ne peuvent pas se permettre d'inscrire leurs enfants ou de leur acheter l'équipement nécessaire pour ces activités-là. C'est pourquoi un organisme à but non lucratif, les Patins de l'espoir, ont mis de l'avant une très, très belle initiative, celle de supprimer les obstacles en fournissant l'équipement nécessaire et les patins aux enfants partout dans le Canada qui ressentent ce besoin-là. Et c'est une initiative qui n'est pas tout à fait neuve. Ça fait 5 ans que ça existe. Moi, je ne connaissais pas du tout les Patins de l'espoir. C'est une grande campagne d'envergure qui se passe autant ici au Québec, mais également à Vancouver, à Winnipeg, à Toronto, à Calgary, Edmonton, Ottawa, donc les grandes villes du Canada. Demain, pour ce qui concerne le Québec, Yvon Lambert, qui est un ancien joueur des Canadiens, sera là pour faire la promotion de cette campagne de sensibilisation-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que depuis le début de la campagne, hein, je vous disais 5 ans, c'est pas tout à fait 9, même si c'est encore malheureusement méconnu, il y a environ 40 000 patins qui ont été donnés à travers le pays, 3 000 au Québec, ce qui n'est pas rien, ce qui peut permettre à des enfants de réaliser l'activité qu'ils aiment, que ce soit du patin artistique ou du hockey, et bien sûr, de demeurer actifs. Et ça, c'est toujours important dans l'adoption, le maintien de saines habitudes de vie. Dr. Martin Junot serait content d'apprendre ça parce que ces habitudes-là, ça prennent très, très tôt dans la vie. Donc, les patins de l'espoir, vous pouvez y contribuer aussi, évidemment, si vous avez de l'équipement à offrir. Vous pouvez aller sur leur site skate2great.org afin de donner puis d'avoir tous les points de chute là, où vous pouvez y aller. Vous avez jusqu'à la fin mai pour le faire et l'organisme Les Patins de l'Espoir vous encourage même à prendre une photo de vous lorsque vous allez porter ces patins-là, notamment sur Twitter. Vous pouvez y mettre une photo avec le mot-clic « don de patins ». Comme ça, ben, ça sensibilise d'autres personnes comme moi qui peut-être ne sont pas au courant de cette initiative et qui permettra à plein d'enfants partout au Canada et ici au Québec de pratiquer l'hiver prochain des activités qu'ils aiment. Et moi, parce que ça fait à peu près 10 ans que j'ai pas patiné, donc j'ai pas de patin à offrir, je m'en vais joindre dans quelques instants Roger Godbout. Les troubles de sommeil chez l'enfant sont beaucoup plus fréquents que l'on pourrait le penser et ça affecte toute la famille. On en parle à l'instant avec Roger Godbout, il est psychologue, professeur de psychiatrie à l'Université de Montréal et directeur du laboratoire et clinique du sommeil de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Roger, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Un plaisir de vous retrouver, Roger Godbout.
C'est partagé.
Troubles de sommeil chez l'enfant qui toucherait 25 % d'entre eux, ça me semble d'une part énorme, Roger, et j'imagine que les causes sont multiples.
C'est effectivement un chiffre élevé. C'est assez courant. Il y a une période de l'enfance où le sommeil est plus fragile. Les tout-petits de moins d'un an, ils vont en général bien dormir, sinon au moment où il y a des bobos, des trucs comme ça. Entre 1 et 10 ans, il y a tout un apprentissage pour l'enfant à devenir autonome par rapport à son sommeil. Il va se servir du moment du coucher pour négocier toutes sortes de trucs, le contact avec papa, avec maman. Donc, il peut y avoir une incidence assez élevée, en effet, et ça prend toutes sortes de formes. Ça prend des formes un peu comparables à celles des adultes, c'est-à-dire avoir du mal à s'endormir, avoir du mal à demeurer endormi une fois qu'il est réveillé au milieu de la nuit, il ne se rendort pas, se réveiller trop tôt. Mais on inclut aussi chez les enfants la résistance au coucher. La période noire là, qui précède le coucher, la fermeture des lumières, où l'enfant devient irrité, négocie sur tout, veut pas se coucher, parce que l'enfant, en général, veut garder le contrôle sur son environnement, sur son sommeil, puis ça peut être un peu long et difficile.
C'est ce qu'on appelle, Roger, la résistance au sommeil.
Exactement, c'est la résistance au coucher, même comportementalement. Il voudrait peut-être bien dormir, parce qu'on sait qu'un enfant qui s'endort, c'est pas un enfant qui baille tant que ça, c'est un enfant qui va être un peu plus agité, un peu plus irritable, un peu plus impulsif. Et cet enfant-là donc, va manifester ça parce qu'il ne veut pas quitter le monde du jour, bien souvent. Il peut craindre ce qui se passe la nuit, mais il n'a pas appris à s'approprier ce moment-là à lui. Donc, cette résistance au coucher-là fait partie des signes qui sont compatibles avec un diagnostic, je pourrais dire, ou avec le constat qu'il y a un trouble de sommeil chez cet enfant.
Et il faut y voir parce que ce trouble de sommeil, pendant l'enfance, peut avoir des répercussions dans l'adolescence et même l'âge adulte.
Absolument. D'abord, déjà, chez l'enfant, au moment où il vit cette période de mauvais sommeil-là, d'insomnie, il y aura des difficultés de gestion de l'humeur, des problèmes à l'école, bien souvent, des problèmes même de santé physique. Quand on ne dort pas bien, c'est vrai chez les adultes, c'est vrai chez les enfants, les grippes ou les rhumes vont durer plus longtemps. Ça peut avoir un certain impact aussi sur la prise de poids, s'il y a une mauvaise gestion de l'alimentation et du sommeil, parce que les deux, parfois, vont de pair. Donc, ça peut causer des problèmes comme ça. Rendu chez l'adolescent, ce qu'on va retrouver, c'est un trouble de sommeil qui va être dû au fait que à l'âge de l'enfance, l'adolescent n'aura pas appris à avoir une hygiène de sommeil qui est compatible avec une bonne qualité de sommeil. Avoir un horaire relativement bien organisé, s'aménager un moment de tranquillité avant de fermer des lumières. Et n'ayant pas appris ça, c'est comme d'autres bonnes habitudes qu'on aura appris lorsqu'on est plus jeune. Lorsqu'on ne les a pas avec notre sommeil, on aura un mauvais sommeil étant adolescent, et même peut-être jusqu'à l'âge adulte. À l'âge adulte, chez les jeunes adultes, il y a des périodes période de pointe où on travaille très fort, on a des enfants, on travaille très fort, on veut gagner sa vie, on a un horaire, donc qui bouscule le temps de sommeil. Bien souvent, on va molester notre horaire de sommeil hein, mm-hmm. pour les autres occupations. Ben, ça aura des impacts parce que jeune, on n'aura pas appris ça.
Et on a des enfants qui ne dorment pas aussi.
Ouais.
Et j'en viens bien sûr au fait qu'un enfant qui a des troubles du sommeil, ça affecte toute la famille. Je le disais en introduction, papa, maman, moins concentrés au travail aussi.
Absolument, moins concentrés au travail, plus irritables, un peu plus impatients avec les enfants qui, eux, à leur tour, le deviennent encore plus impatients. Donc, il y a une espèce de boucle infernale là, qui peut se construire.
Roger, on viendra bien sûr sur ce programme de traitement comportemental « Bonne nuit, jour meilleur » qui viendra en aide peut-être aux familles. Mais avant, j'aimerais vous entendre sur des trucs ou des conseils pratiques pour les parents qui nous écoutent pour favoriser le sommeil de leurs enfants.
Bien, pour favoriser le sommeil, d'abord, on peut difficilement détecter est-ce qu'un enfant fera de l'insomnie un jour ou pas. On va le voir à l'occasion si l'enfant a déjà un sommeil profondément perturbé par un événement qui nous semble assez anodin. Tout bien considéré. Et la bonne chose pour prévenir, même si c'est un peu difficile de prévoir, mais si on veut prévenir, c'est de donner assez tôt à l'enfant un horaire assez régulier, de respecter le sommeil, ne pas en faire un moment plus important que le reste, mais c'est un moment important, autant que nourriture, bien s'habiller, etc., s'agiter un petit peu, là, bouger un peu, et en ayant un horaire régulier, je dirais, ça serait de favoriser la perception pour l'enfant du contraste entre le jour et la nuit. Par exemple, dans les minutes qui précèdent l'heure du coucher, ben, on ne fait pas faire l'avion à son bébé parce que c'est très excitant, sa partie du jour, puis c'est tout excitant, puis on n'est pas prêt à dormir à ce moment-là. Alors que l'horloge biologique voudrait bien qu'on dorme, on l'active en faisant plein d'activités comme ça. Il faut bien se rappeler que la fatigue n'est pas de la somnolence. Être fatigué d'avoir fait beaucoup d'exercices, d'avoir couru, d'avoir joué au hockey, même quand on est tout petit, ça ne nous endort pas nécessairement, on va être épuisé. On peut avoir les deux en même temps, mais ce n'est pas la même chose.
Ouais. C'est une question qui est récurrente, j'imagine, mais on pense souvent à l'alimentation de l'enfant. Est-ce que ça a à voir avec son sommeil?
Jusqu'à un certain point, oui. De manger trop tard, de manger trop gras ou trop épicé sont des choses qui vont interférer avec un bon sommeil. Beaucoup d'enfants, je le remarque à la clinique, beaucoup d'enfants vont présenter des problèmes de reflux gastrique ou de brûlure d'estomac et c'est souvent associé à une nourriture un peu trop grasse le soir, un peu trop abondante ou un peu trop épicée. C'est certain qu'on a souvent la soirée cinéma le vendredi, on a un peu de pizza, des choses comme ça. Faut pas s'empêcher de faire ça. Mais de le faire régulièrement, il faut réfléchir à ça. Et la prise de poids va causer des problèmes de sommeil aussi.
Oui. De plus en plus, les adultes que nous sommes, lorsqu'on traverse des épisodes un peu plus insomniaques, on a des produits, on a entendu parler de tisane que l'on peut prendre. Est-ce que c'est recommandé aussi chez l'enfant?
Non, chez l'enfant, on peut prendre d'abord, il n'y a aucun médicament qui est officiellement approuvé pour traiter l'insomnie de l'enfant. Il faut faire recours à des approches que l'on dit comportementales, c'est-à-dire basées sur le fait de donner des bonnes habitudes, de réapprendre, même comme parent, quelle est la bonne mise en contexte pour avoir une bonne nuit de sommeil. Et le programme Bonne nuit, jour meilleur, c'est ce qu'il propose. Ce programme-là est un programme qu'on a mis au point, quand je dis nous, psychologues, des médecins, des infirmières, on a mis au point un programme disponible maintenant en français qui permet aux parents qui ont un enfant qui souffre d'insomnie à apprendre comment travailler la partie de la résistance au coucher. Mm-hmm. Comment travailler la partie du réveil nocturne. Et on fait le tour de ces questions-là en 5 sessions. Et ces 5 sessions-là sur Internet, donc sont accessibles en tout temps, à tout endroit. On peut apprendre à bien remettre dans la bonne perspective les habitudes de sommeil, puis aider son enfant insomniaque à pouvoir mieux dormir et les parents s'en trouvent d'autant plus soulagés eux-mêmes.
Roger, je pense qu'en ce moment, vous cherchez des familles pour le programme Bonne nuit, jour meilleur. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques?
Il y a des critères pour pouvoir participer à l'étude. On peut les voir dans le site web, mais je peux en résumer quelques-uns. C'est que ce qu'on recherche, ce sont des enfants qui font de l'insomnie, c'est-à-dire des enfants qui dorment mal et les parents sont soucieux à ce propos-là. Des enfants qui font de l'insomnie, mais qui n'ont pas d'autres troubles, par exemple médicaux. Ce sont des enfants qui n'auront pas de retard de développement, qui ne souffrent pas d'asthme, qui ne souffrent pas d'épilepsie, par exemple, ou qui n'ont pas de diagnostic de santé mentale, comme des enfants qui souffrent de troubles déficitaires de l'attention, de troubles du spectre de l'autisme, de troubles anxieux ou de dépression. Ça, c'est des enfants qu'on peut voir, nous, à la clinique à Rivière-des-Prairies, mais qui ne sont pas éligibles pour cette étude-là parce qu'on veut commencer par des enfants qui n'ont n'ont pas d'autres troubles concomitants, essayer de bien cibler le trouble de sommeil lui-même seul. Mm-hmm. Il ne faut pas de diagnostic médical de troubles de sommeil comme les apnées non plus. Donc, ce sont des enfants qui font de l'insomnie que l'on appelle comportementale, résistance au coucher, réveil nocturne, sans qu'il n'y ait rien qui puisse expliquer ça. Et là, ces enfants-là, les parents de ces enfants-là peuvent profiter de ce programme-là.
Et avoir un enfant âgé entre 1 an et 10 ans, avoir accès, bien sûr, à un ordinateur, une connexion Internet. Pour en savoir davantage, on peut aller sur votre site, Roger.
Oui. Ce site-là, c'est le site Better Night, Better Days, au pluriel, .ca. Et dans ce site-là, betternightbetterdays.ca, il y aura un onglet français et on va là-dessus, il y aura toute la bonne description des critères, de la durée. Je peux vous dire que c'est un programme qui dure de 5 à 10 semaines, 5 sessions à compléter en 5 à 10 semaines. C'est assez simple. Beaucoup de feedback, beaucoup d'appui, un suivi aussi qui est fait ensuite pour savoir si tout se passe toujours bien. On fait vraiment ça pour pouvoir aider les familles à ce que leurs enfants puissent avoir un meilleur sommeil.
À mieux dormir. Oui, c'est important, le sommeil. On en parle de plus en plus et tant mieux. Roger Godbout, vous êtes psychologue, professeur de psychiatrie à l'Université de Montréal et directeur du laboratoire et clinique du sommeil de l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Merci beaucoup. Toujours un plaisir.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Il est là pour nous parler de la sortie récente de son livre « Un cœur pour la vie, prévention cardiovasculaire globale ». Docteur Martin Junot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, également directeur du, et je le dis en intro, du célèbre Santé PIC. Vous le dirigez maintenant depuis plus de 30 ans. Et docteur Junot, votre livre, il est très bien fait, je vous le dis d'entrée de jeu, étayé par de nombreuses études et il amène à des réflexions. Et l'une d'entre elles a été pour moi, et vous en parlez de façon très claire dans votre livre, que de nos jours, ben, on a peur de mourir du cancer, on a peur de la maladie d'Alzheimer, mais les maladies cardiovasculaires, on n'y pense pas trop, surtout s'il n'y en a pas dans notre famille, des gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires. On pense qu'on en est protégé. J'imagine que c'est l'un des plus grands dangers dans votre pratique.
En fait, oui, vous avez raison. Les gens n'ont plus peur du tout de l'infarctus parce qu'ils voient des reportages où on dilate l'artère bloquée en quelques minutes. Ouais. Il n'y a pas de séquelles. On fait de moins en moins de grosses chirurgies invasives. Là, on fait de plus en plus de petites interventions par les artères. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ces procédures-là, on ne guérit pas la maladie. Mm-hmm. On fait juste retarder, si on veut, les complications. Puis immanquablement, si on pratique aucune bonne habitude de vie, ben là, les récidives reviennent vite. Et puis, on se retrouve 5 ans plus tard avec un cœur qui est vraiment amoché, avec une très mauvaise qualité de vie. Alors, je pense que les gens, je dirais, moi, surestiment ce que la technologie peut faire. Ouais. Et moi, je dis toujours, on est bien plus dépendant des petits gestes qu'on pose à tous les jours pour notre santé que des miracles de la technologie.
Oui, vous en parlez des saines habitudes de vie. On va y revenir avec vos propositions, vos recommandations. Et ce que vous installez dans Un cœur pour la vie d'entrée de jeu, c'est de dire que, bon, notre système de santé, il est orienté vers le curatif, vers le traitement, mais la prévention, ça reste négligé. Pourtant, c'est le nerf de la guerre.
Oui, puis comme je dis dans le livre, les gouvernements vont être battus ou réélus, pas selon qu'ils ont fait ou non de la prévention, mais selon que les listes d'attente pour la chirurgie ou le temps d'attente à l'urgence est bon ou pas bon. Alors, c'est ça qui met de la pression sur les gouvernements, puis ça les presse d'agir tout le temps. Et en fait, c'est ce qui fait que la prévention est toujours négligée parce que les bénéfices vont être vus dans 10 ans, dans 15 ans, alors qu'ils ne sont plus là. Alors, les gouvernements changent aux 4 ans, comme vous savez. Alors, c'est le problème de la prévention.
Oui. Ça fait plus de 30 ans que vous pratiquez ce métier-là auprès de différents patients. Docteur Junot, vous donnez des conférences partout. Est-ce que vous avez vu une amélioration par rapport à cette approche-là, par rapport au traitement, par rapport à la prévention, ou il y a quand même des inquiétudes qui demeurent?
Les deux. Ce qui me rassure, depuis 4-5 ans, je remarque que les conférences que je donne à mes collègues médecins, je sens plus d'enthousiasme. Les salles sont combles, alors qu'avant, c'était pas les conférences les plus en demande. Maintenant, on sent que les médecins veulent en savoir plus sur la nutrition, par exemple, ce qui n'était pas le cas il y a même 5-6 ans.
Mm-hmm.
Les médecins, vous savez, connaissent très, très peu en nutrition.
Ouais.
Alors là, ils en redemandent quand je donne une conférence. Ils veulent que j'allonge la partie là-dessus.
Mm-hmm.
Sur l'exercice, ils en savent un peu plus. Mais vraiment, la nutrition, c'est un problème. Et là où je suis inquiet, par contre, c'est que on met beaucoup, beaucoup d'argent et d'énergie sur les nouvelles technologies et surtout sur les nouveaux médicaments qui coûtent extrêmement cher.
Les fameuses statines, hein, c'est ça?
Les statines, c'est justement l'exemple que je voulais vous donner. Maintenant qu'elles sont génériques, ça coûte au Québec 200-300 millions par année. Le nouveau médicament pour le cholestérol qui est sur le marché depuis quelques temps coûte 7 000 $ par année, vous avez bien compris, pas 200, 7 000. Et si 20 % des gens qui prennent des statines passaient à ce nouveau médicament-là, ça coûterait 1 milliard.
Ouais.
Dans le diabète, on parle des nouvelles pilules qui sortent, là, au lieu d'être 20-30 $ par mois, ils sont 400-500 $ par mois. Alors, c'est absolument astronomique, les augmentations de coûts. Et si on ne fait pas une bonne gestion des coûts, puis si on ne priorise pas de mettre les moyens financiers mm-hmm. sur les nutritionnistes puis les kinésiologues plutôt que sur les pilules, ben on n'est pas sorti de l'auberge.
Non, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut dépenser dans un budget. Et vous le dites dans le livre, c'est que là, on passe à côté des autres priorités, c'est-à-dire l'éducation,
oui.
la culture.
Oui.
Et ça revient à cette fameuse prévention. Vous militez pour ça carrément, Dr Junot, mm-hmm. depuis des années. Et dans ce livre-là, Un cœur pour la vie, vous en parlez, bien sûr, activité physique, cessation du tabagisme. On en entend parler depuis longtemps. Je veux revenir à l'alimentation parce qu'il y a vraiment mm-hmm. de beaux chapitres accordés à ça. Et vous parlez des gras. On a beaucoup misé ouais. sur la réduction du gras, produits sans gras, 0 % de gras. C'est un peu un piège.
Oui, malheureusement, dans les années 80, il y avait un enthousiasme extrême pour la réduction des gras. Et puis quand je dis extrême, c'est que les scientifiques de l'époque, les médecins de l'époque qui en charge des recommandations n'ont pas regardé les conséquences de réduire les gras à ce point-là. La conséquence, c'était que les industriels qui font des yogourts puis des trucs comme ça, ont dit bon ben si on enlève le gras, on va mettre des sucres, sinon ça goûtera rien. Et les gens à l'époque croyaient que le sucre, c'était pas important. Oui, si on en mange beaucoup, ben c'est des calories, donc on peut devenir un peu plus gros, puis ça pourrait amener le diabète. Mais les gens n'étaient pas inquiets. Alors qu'on réalise, bon, malheureusement, beaucoup plus tard, au début des années 2000, que c'était une grave erreur et qu'il aurait fallu dire il y a des bons gras puis des mauvais gras.
Mm-hmm.
Alors, quand on décide de couper les gras, ben il faut savoir lesquels on coupe. Alors, on coupe les gras trans, on diminue les gras trans. Vous savez, c'est ce qu'il y a dans les biscuits, quand on voit l'huile hydrogénée, partiellement hydrogénée, shortening, ça, c'est à bannir. On voit ça malheureusement dans les pâtisseries, les croissants, les biscuits, parce que ça permet à ces produits-là de rester longtemps sur la tablette.
Oui.
Mais ça, il faut vraiment les éliminer de notre alimentation. Les gras saturés, il faut les baisser un peu, mais il y a des bons gras. Alors, l'huile d'olive, les oméga-3 qu'on trouve dans le poisson ou dans les graines de lin, dans les noix de Grenoble, les avocats, par exemple, ça, c'est des très bons gras. Et ça, il faut en manger. Mais dans les années 80, on dit on coupe tous les gras. Alors, on s'est privé des bons gras. Première erreur. Deuxièmement, on a dit les sucres, c'est pas important. Mais on s'aperçoit que cette recommandation-là a beaucoup favorisé l'obésité.
Oui, cette épidémie d'obésité dont vous parlez, qui vous inquiète énormément.
Oui, parce que là, ce qu'on voit maintenant, c'est des diabètes de l'adulte. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, quand on disait le diabète de type 2 ou le diabète de l'adulte, c'est-à-dire pas le diabète que les jeunes enfants ont à Sainte-Justine là, à 5 ans, là, ça c'est autre chose. Mais le diabète de type 2, c'est ce qu'on voyait chez l'homme de 50 ans avec une bonne bédaine, puis pas d'exercice, puis bon, mais il développe ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, puis là, il doit prendre des médicaments. Mais on voyait jamais ça avant l'âge de 35 ans, 40 ans.
Oui.
Là, à 18 ans, c'est banal. Alors, de voir des diabétiques de type 2 à 18 ans, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Là. C'est vraiment un nouveau phénomène. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un diabète de type 2, à peu près 7-8 ans plus tard, vous avez une atteinte de vos artères.
Mm-hmm.
Et les artères du cœur, du rein, des yeux, etc., ce qui fait que ça amène beaucoup de complications, dont l'infarctus, qui peut arriver aussitôt que 30 ans, 35 ans.
Oui.
Et on le voit là, on commence à voir une légère augmentation de l'incidence de l'infarctus chez les jeunes hommes et femmes, c'est-à-dire entre 30 et 60 ans, ce qu'on voyait rarement avant.
Martin Junot, on a vu aussi apparaître sur les tablettes d'épicerie des produits estampillés bons pour le cœur. Je pense, par exemple, à l'avoine, le fameux gruau, là. Est-ce que c'est un coup de lobby, ça, où on peut s'y fier?
Ben écoutez, faut se méfier beaucoup des logos parce qu'il y a des compagnies de malbouffe qui ont des logos à un moment donné, pour pas la nommer, Pepsi avait un petit logo vert. Alors, je sais pas ce que ça venait faire là. Mais alors, je me méfie de ça. Puis la plupart des compagnies sérieuses, pas des compagnies, mais des organismes sérieux ont pas mal arrêté ça parce que c'était compliqué à gérer. Mais moi, je dis toujours aux gens, il faut vraiment apprendre à lire l'étiquette. Et j'ai des conseils très simples. S'il y a des noms que vous ne comprenez pas, c'est louche.
Voilà.
les prononcer, puis c'est des mots chimiques, là, c'est louche. Alors, puis vous savez que les ingrédients sont par ordre d'importance. Alors, si ça commence avec sucre, c'est pas bon.
On laisse ça sur la tablette.
Ouais, sel et tout ça. Alors, tu sais, si le premier, c'est avoine, puis que le deuxième, c'est eau, puis le troisième, c'est jus de pamplemousse, bon, ben ça va, là.
Oui. Oui. Martin Junot, je veux terminer sur l'alimentation, là, mais quand même en disant, parce que moi, ça m'a marqué à la lecture de Un cœur pour la vie, on doit aussi se sensibiliser à l'alimentation des petits, parce que même enfant, et on en parlait tantôt avec Roger Godbout, saines habitudes de vie, chez l'enfant, ça commence maintenant, et pour eux aussi, il peut avoir des impacts sur la santé de leur cœur quand ils mangent peut-être moins bien.
Oui, en fait, ce qu'on a appris, malheureusement, dans des grandes études où les médecins ont fait des autopsies chez des enfants décédés d'accidents de la route, par exemple, ou dans des guerres, on s'aperçoit que même à 10 ans, ils commencent à avoir des plaques, des dépôts d'athérosclérose dans les artères des petits-enfants, là, aussi jeunes que 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et à 20 ans, il y en a déjà 30-40% là, des gens qui ont des plaques. Alors, le point, c'est pas qu'ils vont faire un infarctus à cet âge-là, mais ça montre que c'est une maladie, l'athérosclérose, qui bloque les artères, qui commence à l'enfance.
Tout à fait. Et maladie invisible aussi. Mmh. Et ben c'est simple. Hein? Saines habitudes de vie, alimentation, activité physique, cessation du tabagisme. On n'aura pas eu le temps de parler des facteurs psychosociaux.
Ah,
vous en parlez dans le livre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Gestion du stress et vous y donnez des trucs aussi. Bon, méditation et bon, d'autres trucs, Martin Junot. Je réfère à votre site centreepic.org, votre livre Un cœur pour la vie. Et je salue votre travail, Dr. Martin Junot. Merci.
C'est très apprécié. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Je vous rappelle ce qui s'en vient en deuxième partie. France Cardinal Rémette, infirmière, auteure et enseignante, vient nous parler en chronique de comment on peut prendre mieux soin de soi lorsqu'on est un proche aidant. C'est important de le faire pour être un meilleur aidant sans y laisser sa peau. On le sait, il y a des études à l'appui à savoir que parfois, le proche aidant va décéder avant même la personne qui l'aide et va se retrouver parfois en mauvaise santé. Évidemment, c'est pas ce que l'on souhaite. Il y a des façons de faire. France nous amènera aussi à se sensibiliser, à aller chercher l'aide, aller chercher les ressources sans avoir honte et sans hésiter. Mais pour le moment, devant moi, Marie-Joannie Raymond, kinésiologue, enseignante en danse et directrice de Au nom de la danse Division Québec, vient nous parler des bénéfices de la danse pour les personnes qui vivent en situation de handicap. Bonjour, Marie-Joannie.
Bonjour.
Merci d'être là. Au nom de la danse, c'est une initiative qui vient de l'Europe, qui vient de la France. Comment vous avez été peut-être mis en contact avec cette initiative-là?
Oui, bien en fait, c'est par Véronique Clément, qui est directrice du réseau d'enseignement de la danse ici au Québec, qui m'a mis en contact avec Cécile Martinez, qui fait de la danse adaptée en Europe depuis maintenant environ une quinzaine d'années, je dirais. Donc, elle a une grosse école là-bas avec plus de 200 danseurs avec handicap. Elle a vraiment monté ça là, au fil des années. Puis en juin dernier, je suis allée la rencontrer là-bas, passer 2 semaines avec elle, assister au spectacle et tout ça. Donc, on a créé des liens. Puis c'est de cette union-là, finalement, là, qu'on a décidé de partir une branche au Québec, ici, en collaboration.
Ça fait combien de temps, à peu près, que vous avez décidé de mettre ça de l'avant pour la division au Québec?
Je dirais depuis avril dernier, on y pensait.
Donc, ça fait un an, à peu près, que c'est dans le collimateur.
Oui.
C'est reçu de quelle façon ici par les interprètes, par les personnes qui ont envie de danser en ayant un handicap?
C'est sûr, c'est ça. C'est depuis début mars que c'est officiel.
Ça, c'est
donc,
tout nouveau,
c'est tout nouveau. Oui, c'est ça. Mais il y a déjà beaucoup, j'ai déjà beaucoup d'intérêt de la part des personnes avec des handicaps. Donc, j'ai déjà quelques groupes qui sont mis en place, autant avec des personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles que physiques. Donc, en amont, avec le travail de Cécile, elle avait déjà des contacts ici au Québec.
Ah oui.
Donc, j'ai pu reprendre un petit peu là, ce qu'elle avait commencé ici, puis, dans le fond, développer ça.
De quelle façon on adapte, que ce soit la danse ou même, au-delà de ça, votre travail de kinésiologue?
En fait, notre vision, c'est vraiment de focusser finalement sur les capacités des gens et non sur leurs limitations. Donc,
ouais.
C'est vraiment une approche inclusive. On veut que... C'est pas un style en particulier non plus. Donc, c'est vraiment par le mouvement, on amène les gens à faire peut-être des mouvements qu'ils sont moins habitués de faire ou justement, ils découvrent que, finalement, j'étais capable de bouger mon bras comme ça. Donc, dans un contexte de danse, il y a vraiment des possibilités qui s'ouvrent à eux, puis on les laisse vraiment explorer justement leur corps. On donne des pistes. Si, par exemple, les personnes ne peuvent pas utiliser leurs jambes, bien, est-ce qu'ils peuvent bouger les bras ou leur tête à la place pour essayer de créer un mouvement? Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on approche.
Explorer leur corps,
oui.
Et explorer les possibilités pour les personnes qui vivent en situation de handicap, qui suivent vos ateliers, vos cours, Marie-Joanie, c'est de se réapproprier, mais ça amène aussi une estime de soi, j'imagine.
Oui, voilà. Donc, la danse, souvent, c'est des personnes aussi, justement, qui ont soit été en thérapie individuelle ou, tu sais, de la thérapie conventionnelle, de la physio, tout ça, beaucoup dans leur vie, ou qui n'ont pas eu accès à une activité de loisir, tout simplement. Donc, c'est vraiment de leur donner cette accessibilité-là, puis leur donner la chance de faire une activité de loisir normalisante, comme tout le monde peut s'inscrire à un cours de danse, bien, eux aussi, ils peuvent le faire dans un environnement qui est sécuritaire pour eux, puis bien encadré.
Quel est le profil de vos participants?
C'est assez varié. autant on veut aller chercher le plus grand nombre d'handicaps divers possibles. Donc,
c'est
autant handicap physique, intellectuel, ça peut être maladie neuromusculaire, des gens vivant avec la trisomie 21. Donc, on essaie vraiment d'ouvrir
Et tous les âges aussi?
Oui, c'est ça. Donc, on ne se limite pas, là. On veut que les gens viennent essayer, qu'ils voient en premier ce que ça donne, ce que ça fait comme effet dans leur corps, puis souvent, ils vont continuer par la suite.
Oui. Au nom de la danse, il y a 2 types de cours. Il y a les cours adaptés et les cours intégrés. C'est bien ça?
Oui. Donc, les cours adaptés, c'est un cours où est-ce qu'il y a vraiment juste des personnes en situation de handicap. Puis les cours intégrés, là, on va intégrer finalement des danseurs valides avec eux. Donc, ça l'ouvre encore une fois encore plus de possibilités parce que les danseurs valides vont souvent stimuler les personnes avec les handicaps, vont leur faire des mouvements que peut-être par eux-mêmes...
Par valide, on dit sans handicap,
oui,
c'est ce qu'on veut signifier.
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est la distinction qu'on fait. Donc, ça peut être des personnes qui ont dansé toute leur vie ou qui ils veulent venir juste faire un atelier avec nous d'exploration pour voir le contact avec les personnes vivantes.
À ce moment-là, chacun peut s'apporter, peut se compléter et s'enrichir de cette expérience-là.
Exactement. Donc, autant les danseurs valides, donc sans handicap qu'avec handicap, il y a vraiment un partage qui se fait, puis des belles relations par la suite là, qui continuent souvent. Puis c'est vraiment un lien fort qu'on peut créer avec la danse dans ces ateliers-là.
Ouais.
Donc, ça donne lieu vraiment à des belles situations là, parfois, oui.
Évidemment, Marie-Joanie, Vous êtes kinésiologue, donc j'ai envie de m'intéresser à l'aspect santé de la danse. Est-ce que vous avez pu observer les bénéfices pour ces personnes qui vivent en situation de handicap?
Oui, bien en fait, même j'ai pu les constater par ma maîtrise en danse adaptée également. Donc vraiment, il y a des bénéfices autant sur le côté physique que psychologique. Donc, sur la mémoire, la concentration, la force musculaire, la flexibilité. Donc, c'est vraiment une activité complète. Puis, vu qu'il y a de la musique aussi, c'est en groupe, donc c'est une activité sociale. Donc, il y a vraiment beaucoup de bénéfices associés à la danse qu'on peut venir chercher. Là. Oui.
La danse adaptée au Québec, est-ce que... quelle est sa place? J'ai l'impression qu'on en entend parler, de plus en plus. Peut-être moins qu'en Europe, toutefois?
Bien, c'est mon impression aussi également. Je sais qu'il y a France Geoffroy avec Corpuscule Danse ici au Québec depuis quelques années qui fait des cours adaptés puis intégrés également. Donc, de plus en plus, ça semble être une avenue là, qui est exploitée puis qui se développe pour le bonheur de tous, là, finalement. Là, c'est vraiment une belle nouvelle.
Oui. Est-ce qu'il y a des possibilités de spectacle? Est-ce que ça va dans la philosophie de votre école?
Oui. Donc, si les gens sont à l'aise de faire un spectacle, nous, c'est sûr que c'est une finalité, un objectif qui, pour eux, peut être super motivant. Donc, encore une fois, dans une activité normalisante, eux, dans le fond, on les voit, c'est des danseurs. C'est plus des personnes avec des limitations. Ouais. Donc, nos danseurs vont faire un spectacle... notamment le 9 juillet, là, ici à Montréal, à la Maison de la culture Mercier.
Ah oui!
Donc, c'est ça. C'est vraiment un objectif qu'on a d'amener les gens sur scène pour qu'ils expérimentent ça puis qu'ils aient accès à la scène comme n'importe qui d'autre, finalement. Là.
Et en même temps, on comprend que vous êtes à vos premiers balbutiements, donc ça prendra de l'ampleur.
On l'espère bien.
et en terminant, on pourrait dire que vous travaillez déjà avec de nombreux partenaires.
Oui, c'est ça. Donc, on a l'Alpha à Pointe-aux-Trembles, qui est un organisme qui est...
Ça fait un petit blanc, c'est pas grave.
Qui travaille avec des personnes avec handicap intellectuel et physique, si je me trompe pas. Puis, je développe aussi beaucoup d'activités avec Autisme Laurentide, Autisme Montérégie. Je suis en contact avec la MDI pour leur camp d'été aussi, peut-être offrir des activités de danse. Là. Donc, de plus en plus, là, j'essaie vraiment
d'enrichir ces collaborations.
Oui, c'est ça, d'élargir mon réseau. Puis, voilà.
Bien, merci beaucoup de votre passage à l'émission, Marie-Joanie Raymond. Je rappelle, vous êtes kinésiologue, enseignante en danse adaptée, directrice de Au nom de la danse Division Québec. On donne l'adresse du site aunomdeladanse.com. On y parle plus des activités en France. Il y a quand même une petite page où on parle de vous.
Oui.
Sinon, on peut référer à votre page Facebook.
Oui, donc Au nom de la danse-Québec. Donc, c'est là qu'on a toutes les informations encore plus.
Et il y aura peut-être éventuellement un site web destiné aux activités ici au Québec.
Oui, c'est ça.
Au plaisir, Marie-Joanie.
Merci beaucoup.
Cardinal Remette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. On parle d'un sujet aujourd'hui, et on ne le savait pas, qui est quand même assez d'actualité, parce que 5 avril, journée mondiale du travail invisible, donc celui souvent des parents, papa, maman, des bénévoles et des proches aidants. Et c'est de ça que l'on parle aujourd'hui, du travail des proches aidants, qui est un travail parfois exigeant, en fait souvent, et sur plein d'aspects psychologiques, physiques, financier, ça vient chercher des aspects aussi, bon, la famille, le travail, hein, on sort de nos zones de confort. Et vous êtes là aujourd'hui, France, pour nous parler de comment s'aider finalement à être un meilleur aidant et aller chercher de l'aide. Il y a beaucoup de proches aidants au Québec et puis il y en aura davantage dans les prochaines années.
Oui, en effet, au Québec, plus d'un million de personnes agissent comme proches aidants. Et parmi ce million, 20 % consacrent 10 heures et plus par semaine auprès d'un proche. Et on retrouve beaucoup les femmes hein, comme proches aidantes aussi. Puis ce qu'on remarque, c'est que dans notre vie active, on est habitué à travailler beaucoup, les femmes, les hommes aussi, mais on est vraiment dans une intensité de travail. Hein. On doit élever nos enfants, travailler. Maintenant, la femme travaille à l'extérieur. On s'occupe de nos propres parents. On parle même de génération sandwich. Donc, on est un petit peu entraîné à toujours travailler et à ne pas penser à soi tant que ça.
Oui. Hein?
C'est ça. Alors, c'est le constat qui est fait, effectivement, quand on arrive à une étape où on doit vraiment s'impliquer plus intensément en tant que proche aidant ou proche aidante. Et très souvent, on passe en dernier. Hein? On se concentre sur la personne qui a des besoins, qui est qui vit une expérience de maladie, et on s'investit auprès de cette personne-là aux dépens de soi-même, malheureusement. Et tu parlais de honte tantôt. Il y a aussi qu'on se pense, souvent les gens vont se penser l'expert pour ouais. prendre soin. Alors, même Marguerite Blais, à l'émission Deux filles le matin, tout dernièrement, disait « Ah ben non, moi, je voulais prendre soin de mon mari, j'étais l'experte et je voulais pas que personne d'autre s'en occupe. » Mais elle dit « Faut pas faire ça. » Elle donnait le message elle-même, oui. elle qui s'est impliquée dans ce volet-là et qui continue à s'impliquer. Alors, on sait que il y a des signes, hein, quand on devient fatigué, on devient irritable. Les gens, entre autres, qui s'occupent des personnes qui ont des problèmes cognitifs comme la maladie d'Alzheimer vont voir leur sommeil entrecoupé plusieurs fois dans une nuit quand la maladie s'intensifie. Alors, ils vont manquer de sommeil. Ou vis-à-vis d'autres types de maladies, on doit se lever la nuit pour aider la personne à se rendre aux toilettes, par exemple. Alors, on devient irritable, on manque de concentration, on est fatigué au lever, c'est pas compliqué, hein? C'est ce que ça fait. On devient anxieux. Alors, il y a plein de signes à surveiller. Oui. Et puis, ce que je vois souvent, puis je l'ai observé en arrivant tantôt justement ici, je voyais un monsieur qui aidait sa dame, qui avait des gros problèmes de mobilité, qui était en fauteuil roulant, puis il l'aidait à entrer dans la voiture. Et je l'entendais, là, qui était un petit peu irrité, là, en lui parlant. Il haussait le ton, puis bon. Alors ça, quand on arrive à ce point-là, c'est parce qu'on est vraiment épuisé.
Oui.
Ce sont des signes.
Vous dites, France, et c'est intéressant, on se dit l'expert de notre proche. Et parfois aussi, on veut être le super-héros. On pense qu'on est indispensable. C'est moi qui le fais, c'est ma responsabilité, j'ai pris l'engagement, il n'y a personne d'autre. Faut dire que parfois aussi, la famille veut bien aider, mais avec les étapes, hein, c'est souvent des étapes à long terme, être proche aidant, l'aide s'amenuise et on devient aussi, on a l'impression qu'on devient la seule personne pour notre proche.
Exactement. Puis c'est ça le danger. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au début, tout le monde est là, tout le monde veut aider, tout le monde a une bonne volonté là, de nous supporter l'autre. Mais avec le temps, là, ces gens-là, ils se désengagent tranquillement. Puis souvent, il y en a une personne qui est beaucoup plus près et qui, vraiment, au risque de perdre sa santé, là, s'implique beaucoup auprès de la personne qui est malade. Alors, ce qui est très, très important, moi, je me suis documentée beaucoup, lu énormément.
Oui.
Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord comprendre ce qui se passe vraiment avec la personne qui vit une expérience de santé. Alors, la personne dont on prend soin, là, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, il ne faut pas se gêner, questionner le médecin, l'équipe de soins, l'infirmière pivot. Moi, je prends soin présentement d'un oncle qui est très malade. Et ça m'a pris du temps avant de trouver la personne qui connaissait vraiment le dossier de cet oncle-là et qui faisait les démarches pour lui. C'était une infirmière pivot en oncologie, parce que ce n'est pas toujours la même personne dans un milieu hospitalier. Alors, c'est elle qui est devenue ma personne ressource et ça m'a donné un réconfort inouï de pouvoir me reposer, si on veut, sur cette personne-là qui est vraiment ma personne clé, là, puis qui communique avec moi. Alors ça, c'est très important. Parce que beaucoup de choses qui peuvent se passer hein, quand on est malade, c'est pas toujours des cas de cancer ou des cas de cancer qui vont aller vers des soins palliatifs rapidement. Comme dans cette situation-là, il y a des services de réadaptation qui vont être offerts. Alors, il y a un transfert dans un centre de réadaptation. Alors, il faut être au fait de ces démarches-là qui vont se faire puis s'y préparer également. Et il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas tout seul. Mm-hmm. On n'est vraiment pas tout seul. Il faut se créer un réseau. Alors, premièrement, la personne elle-même qui vit l'expérience de maladie doit absolument être impliquée à toutes les étapes. Elle doit être impliquée à la prise de décision par rapport à sa santé. On n'est pas là pour se substituer parce qu'elle est malade. Non, mm-hmm, non. Mm-hmm. Elle doit être très présente. Et ça aussi, c'est un appui. On ne se sent pas coupable de rien parce qu'on a pris les décisions à deux. On a cheminé ensemble. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, se créer un réseau d'aide, une équipe. Il y en a qui vont l'appeler l'équipe d'entraide. Alors, ça peut être d'autres membres de la famille, des proches, des amis, des voisins qui étaient très près de cette personne-là. Il y a aussi tous les professionnels de la santé qui interagissent. Alors, eux aussi font partie de cette équipe d'entraide. Et c'est important de s'épauler, puis d'organiser un peu aussi, comme quand il est question de visite, d'accompagnement, de période de répit qu'on veut s'offrir. Alors, on fait venir quelqu'un pour demeurer avec la personne qui est malade. Alors, c'est important d'organiser tout ça avec ces gens-là, puis d'exprimer nos besoins.
Oui. Des fois, l'aide, elle peut venir de « peux-tu garder les enfants? » peux-tu aller me faire des courses? C'est indirect aussi. Oui. C'est pas nécessairement lié à notre rôle de proche aidant.
Non. Il y a d'ailleurs aussi les organismes communautaires et il y a des ressources privées, soit des entreprises ou des travailleurs autonomes qui peuvent être mis à contribution également. Mais il y a beaucoup de ressources qui existent, mais on ne les connaît pas finalement.
J'ai envie de vous arrêter avant qu'on poursuive avec les ressources, France, sur la communication puis le contact qu'on a avec notre proche, celui que l'on aide, de lui dire « Écoute, parfois j'ai besoin d'une pause. Ça va être ma sœur qui va venir te voir à l'hôpital ou ça va être le voisin qui va aller avec toi à ton rendez-vous. » Il faut être capable de le dire aussi.
Oui, absolument. Moi, je l'ai fait justement tout dernièrement avec cet oncle dont je parlais. Puis il était tellement content d'avoir des nouveaux visages, de nouvelles personnes qui venaient, qui parlent de d'autres choses, qui l'écoutent. C'est un monsieur qui aime beaucoup parler. Alors, ces gens-là viennent une fois par semaine, une fois par deux semaines, puis sont à l'écoute. Et ça fait toute une autre dynamique.
Hein. Ça nous revitalise aussi beaucoup. En tant que prochain
aidant. Alors, ça aide la personne et ça nous aide nous-mêmes. Et j'aimerais beaucoup parler des ressources,
bien
parce
sûr.
Qu'on ne les connaît pas toutes, ces ressources-là. J'en ai découvert des pas mal intéressantes. Entre autres, on sait qu'il y a des ressources de répit quand on est à domicile. Admettons, là, la personne est hospitalisée, elle revient à domicile, puis là, on s'en occupe intensément et on veut du répit. Oui, il existe des ressources, soit d'hébergement temporaire ou des personnes qui peuvent venir à domicile pour un bloc de 3 heures, par exemple, pour nous permettre d'aller ailleurs. Il y a aussi des centres de jour qui peuvent accueillir des gens, entre autres pour des gens qui ont des problèmes cognitifs ou qui ont certains problèmes de mobilité. C'est avec le CLSC, qui font partie maintenant des centres intégrés de santé et services sociaux, qu'on peut rallier tout ça, là, puis faire la demande et puis pouvoir avoir ces ressources. Il y a d'autres ressources aussi, l'appui. Je veux vraiment vous parler de cette ressource-là, qui est vraiment une ressource qui existe à travers le Québec. Alors, l'appui permet d'identifier, dans le fond, les ressources possibles. Ils ont un service qu'on appelle info-aidant. Ils font de l'écoute, ils donnent de l'information et des références. Leur numéro de téléphone, je vais le donner tout de suite, 1-855-852-7784.
Et on mettra ça sur notre site Web.
Oui. Ils ont aussi un répertoire de ressources par région. On entre notre code postal et ils ont des catégories comme répit, information, documentation. Ils ont des activités de formation parce que formation, quand on est proche aidant, personne ne se forme pour être un proche aidant.
Ouais.
Ça nous arrive comme ça. Alors, un peu partout au Québec, il y a des activités de formation fort intéressantes pour vraiment outiller les personnes, les supporter et les aider. Il y a aussi de la documentation juridique et fiscale, de l'information sur l'aide à domicile, l'entraide, soutien, transport, hébergement.
Mm-hmm.
Alors, il y a beaucoup de sujets qui sont couverts par cet organisme-là. Et il y a toujours aussi le regroupement des aidants naturels du Québec au www.ranq.qc.ca où on peut aussi aller chercher toutes sortes de ressources, d'outils qui peuvent nous aider. Et on peut, avec le service, je voudrais revenir à l'appui, là, il y a aussi un soutien psychosocial qui peut être offert et qui peut être vraiment nécessaire dans plusieurs situations.
Et il y a toujours votre livre, France Cardinal Remette, « Quand la vie se fragilise », un guide pour vous et vos proches aidants. C'est aux éditions Multimonde, qui est vraiment la Bible du proche aidant. Je veux terminer sur une chose. Vous avez parlé de l'appui et de ces services psychosociaux. Quand on arrive proche aidant, vous l'avez dit, France, quand ça nous arrive, en fait, ça nous tombe sur la tête. Il n'y a pas de baccalauréat pour apprendre ça. Il y a une attitude aussi. On a l'impression que c'est une fatalité. On se dit, pourquoi ça a tombé sur moi? Pourquoi j'ai à vivre ça? Est-ce qu'il existe de l'accompagnement aussi pour apprendre à mieux accepter ce qui nous arrive?
Bien, je pense qu'avec les ressources que j'ai données, oui, l'accompagnement est disponible. Et partout dans les écrits, on dit aux gens, on leur dit, là, il faut que vous modifiez votre attitude, il faut être positif. Parce que la vie est comme ça, hein? C'est un cheminement, puis ça ne peut pas toujours être les joies extraordinaires tout le temps. Et moi, j'avoue que j'étais souvent réticente d'être proche aidante, ça m'est arrivé souvent, mais j'ai tellement appris sur moi-même et j'ai appris sur les autres aussi, sur l'être humain, et ça m'a rendue plus forte. Vraiment plus forte, plus heureuse aussi dans ma vie.
France Cardinal Remette, vous êtes infirmière, enseignante et auteure de ce livre « Quand la vie se fragilise ». Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci.
Merci.
Je rigolais tout à l'heure quand je disais à France Cardinal Remette, on va mettre ça sur notre site, bien parce que Christiane Campagna faisait son entrée dans le studio. C'est elle qui s'occupe du site, de tout mettre les liens qui, après, peuvent ces liens vous guider et vous amener à des ressources précieuses, à des ressources précieuses. Christiane Campagna, on veut justement guider ces gens qui ont besoin de savoir davantage sur l'autisme. On en parle énormément en ce moment parce que c'est le mois de l'autisme qui a commencé le 1er avril. Et nous, on en parle souvent de ce sujet-là au Canalem.
Voilà, c'est ce que je me disais lundi matin avec... Bon, la veille, c'était la journée de l'autisme. C'était le début du mois de l'autisme. Nous, on en parle à l'année, pourrait-on dire. Alors, j'ai tout simplement mis sur Facebook un lien vers un résultat de recherche. Quand on clique sur le mot-clic autisme sur notre site web, ça vous permet de retrouver tous les sujets touchant l'autisme qu'on a fait depuis septembre dernier. Et tout à l'heure, j'ai ajouté quelque chose, un petit lien sur la page d'accueil de Canalem. Vous allez voir la photo de Charles et Paul Saint-Germain que vous aviez reçue, Marianne, dans le cadre de Portrait de famille. Et ça dit « Moi de l'autisme, tous les sujets », mais c'est tous les sujets depuis septembre. Vous cliquez là-dessus et vous allez pouvoir réécouter toutes les entrevues.
Oui. Et en même temps, il y a la Fédération québécoise de l'autisme qui organise plusieurs activités, plusieurs événements tout au long du mois d'avril. autisme.qc.ca pour en savoir davantage. Et c'est agréable de voir que cet organisme-là et plein d'autres au Québec en ce moment s'organisent pour parler de l'autisme, mais aussi pour encadrer et soutenir les familles qui vivent avec un proche qui a l'autisme.
Oui, c'est ça. C'est des comptes à suivre aussi sur les médias sociaux, Fédération québécoise de l'autisme, Autisme Montérégie, Autisme Montréal, specdelautisme.com. Vous allez, et c'est ces organismes-là que vous allez entendre dans ces entrevues vers lesquelles le lien sur la page de Canalem va vous mener.
Ben voilà. Merci beaucoup, Christiane Campagna, de vous occuper de ce site web, de Facebook, de Twitter. D'ailleurs, on aime quand les gens réagissent.
Absolument, absolument. Partagez les bonnes nouvelles.
Est-ce qu'ils le font?
Ils sont timides un peu, nos auditeurs. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez aimer, mais vous pouvez aussi partager les liens qu'on met là, les liens vers ce que nous produisons, mais aussi vers les activités, des informations de nos partenaires.
Alors, on est présent sur Twitter, on est présent sur Facebook, vusetvoix.com pour en savoir davantage sur notre travail, sur nos émissions et sur toutes les entrevues liées à l'autisme. Je te remercie, je te tutoie et je te remercie, Christiane Campagna, pour ton travail. C'est Jean-Sébastien de la Liberté derrière sa console. Marianne Paquette au micro, merci d'avoir été des nôtres. Et on se redonne rendez-vous, nous, la semaine prochaine. Vous pouvez aussi entrer, si vous préférez le téléphone, vous pouvez entrer en contact avec nous aussi par ce bon vieux moyen de communication. C'est le 1-800-361-0635 et le poste 220. Merci d'avoir été là, France. Merci d'être restée, Marie-Joanie. Et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.